Mes frères et sœurs, aux saints qui sont à Saumur et aux fidèles en Jésus-Christ, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Alors ce matin, nous allons continuer notre série. Vous savez de quoi parle notre série, bien sûr. Oui, très bien. Nous allons continuer notre série sur la sanctification. Après avoir vu que nous sommes sauvés par grâce et de fait rendus saints par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons vu que nous devions aussi progresser dans la sanctification tout le long de notre marche sur cette terre. Et nous n'attendrons pas la perfection ici-bas, mais au jour du Seigneur. Ensuite, David, la semaine dernière, nous a parlé de la différence entre un croyant et un disciple. Ainsi, dans nos églises, nous sommes normalement tous croyants, mais malheureusement, nous ne sommes pas tous disciples. Et il a ensuite développé que suivre notre Seigneur Jésus-Christ comme disciple nous demandait de renoncer à soi-même. Il y avait trois points. Le deuxième, quelqu'un s'en souvient ? Porter sa croix, très bien. Alors c'est plus facile pour nous parce que nous avons commencé notre groupe de maison hier. Et on a parlé de ce sujet-là, même si Margot et moi n'étions pas présents, j'ai écouté sur le site le message de David, donc pour moi c'est plus frais. Et le troisième point, c'était suivre Jésus sans compromis dans nos vies, c'est-à-dire se soumettre à tout son enseignement. Sommes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que David a dit, que j'ai peut-être oublié? Bon, alors que vous parliez maintenant ou que vous vous taisez à jamais. J'ai toujours aimé cette expression. Bref, le titre de mon message, c'est « La sanctification seule ou la sanctification en groupe ?» Savez-vous que nous vivons des temps prophétiques? Le savez-vous? Qu'aujourd'hui, 17 novembre 2024, nous vivons ce que la parole de Dieu a dit il y a plus de 2000 ans. On va le voir un peu plus tard, je vais vous l'expliquer. Laissez-moi vous poser une autre question. Comment définiriez-vous notre société, notre monde, d'un point de vue relationnel? Mais tu as toutes les bonnes réponses, Lydiane. C'est vrai que le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est l'individualisme. Et même les psychologues parlent de l'hyper-individualisme à cause des réseaux sociaux. Ce matin, j'ai lu dans Le Parisien que les jeunes ne communiquent même plus, n'osent même plus décrocher leur téléphone parce qu'ils ont peur de parler à une personne de l'autre côté et préfèrent envoyer des textos, envoyer des vocaux, comme ils disent, pour que la personne l'écoute quand elle aura envie. Et ainsi, ils ne sont pas confrontés à la réalité des choses et peuvent malheureusement s'exprimer des fois de façon violente et mal appropriée. Alors vous conviendrez que notre société est une société de plus en plus individualiste. Et comme je viens de dire, paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication et pourtant l'homme est de plus en plus seul. L'être humain se sent seul. L'individualisme est une caractéristique de la société occidentale du XXIe siècle. Alors la définition que j'ai trouvé, c'est « Attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et l'autonomie de la personne au regard de la société. Tendance à s'affirmer indépendamment des autres, à ne pas faire corps avec un groupe. » Tout le contraire de ce que nous demande la parole de Dieu. Et malheureusement, l'individualisme s'est installé aussi dans nos églises. Aujourd'hui, avec tous les contenus chrétiens que nous trouvons sur Internet, nous pouvons être poussés à croire que nous pouvons, nous aussi, en tant que chrétiens, nous en sortir par nous-mêmes et vivre notre foi de façon individuelle. C'est vrai que nous pouvons choisir le message qui nous convient. Et si ce message nous interpelle, pointe notre péché, pointe ma misère, alors je peux en toute liberté zapper sur un autre message qui plaît mieux à mes oreilles et qui au final ne me fera pas grandir dans la sanctification. Alors voilà la prophétie que nous vivons aujourd'hui et que Paul a dite à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. Donc Paul parle à Timothée dans cette lettre et lui dit « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. » Mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Nous vivons malheureusement des temps prophétiques dans ce sens-là. Et si Paul a mis en garde Timothée, ce matin encore, il nous met aussi en garde de se laisser conduire par la parole de Dieu et de ne pas zapper, de ne pas avoir cette tentation ou cette séduction, comme était dit, d'aller écouter des choses qui nous font plaisir et qui ne nous remettent pas en question. D'ailleurs, la Covid a révélé cet aspect des choses dans l'Église. Ainsi, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas revenus dans nos églises, mais sont restés chez eux, vivre leur foi. De même, il suffit aussi de regarder de plus près les paroles des nouveaux chants. Et vous verrez que le pronom « nous », première personne du pluriel, a été remplacé largement par le pronom « je », première personne du singulier. Et pourtant, rappelons-nous comment Jésus nous a appris à prier. Jésus a commencé en nous expliquant de dire « Notre Père ». Alors, quelle application cela a pour nous, pour nos vies, de dire « Notre Père ». Qui se souvient comment je vous ai salué au début de mon intervention ? Vous avez tous été surpris, parce que je n'ai pas l'habitude. Les saints se murent, c'est vrai. Les disciples de Jésus-Christ. Mais au début, je vous ai dit quoi ? Mes frères et mes sœurs. Je vous ai salué en tant que mes frères et sœurs, et je ne le peux à la seule condition que nous ayons le même Père. Cela implique que nous sommes une même et une seule famille. La famille des rachetés, constituée d'hommes et de femmes, pécheurs, mais graciés par la justice de Christ. Eh bien, ce matin, je vous propose de voir ce que nous enseignent les Saintes Écritures sur comment doit vivre un disciple de Jésus. Nous verrons que, contrairement à la société d'aujourd'hui, la communion fraternelle tient une place et un rôle primordial dans la vie du disciple. Nous verrons de quelle manière Dieu nous fait progresser dans notre sanctification à travers la communion fraternelle. Comment Dieu fait pour équiper son peuple afin de grandir en maturité. Et pour cela, je vous propose de nous appuyer sur un chapitre dans la lettre des Éphésiens, le chapitre 4. Alors oui, c'est un chapitre qui est un petit peu long, mais la parole de Dieu nous dit quoi ? Nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il est toujours bon de lire, d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celui de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Amen. Quel programme intense, quel programme que l'apôtre Paul énonçait aux chrétiens, aux saints d'Éphèse, et qui est aujourd'hui aussi d'actualité pour nous. Alors, les situations que je vous ai données au début du message proviennent en fait de cette même lettre, au chapitre 1 et au verset 1. Et ces salutations soulignent que ce que Paul enseigne ici s'adresse bien à des disciples, à savoir les saints, et non pas aux croyants ou les sympathisants de notre Église. Paul écrit ici aux saints et aux disciples de Christ. Alors, petite parenthèse. Vous qui n'êtes pas encore engagé en tant que disciple, mais qui êtes touché, interpellé par l'Évangile, par l'œuvre que Jésus-Christ a faite, la porte n'est pas fermée tant que nous pouvons dire aujourd'hui. Et la grâce coule encore aujourd'hui pour chaque homme et chaque femme. Alors si vous êtes interpellé, touché, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à l'appel de Christ. Fin de la parenthèse. Paul rappelle dès le premier verset aux disciples d'Éphèse qu'être un disciple de Jésus-Christ peut vous en coûter votre liberté. D'ailleurs, dans cette lettre, il le dit plusieurs fois qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Cela nous montre que marcher comme disciple peut nous coûter notre liberté et peut nous coûter de renoncer à soi-même, comme Jésus-Christ nous l'a demandé. Être disciple, c'est marcher sans compromis et dans la fidélité de Dieu. D'ailleurs, nous allons la semaine prochaine parler de l'Église persécutée. Bon, je spoil un peu les annonces, ou en bon français, je vous divulgue par avance les annonces. Mais je pense que nous verrons la semaine prochaine que ces chrétiens sont des vrais disciples, car ils sont prêts à tout perdre pour Christ. Ils sont prêts à faire des kilomètres à pied pour se réunir et être en communion les uns avec les autres. Ils sont prêts à venir le dimanche, ne sachant pas s'ils reviendront vivants de leur rassemblement. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos frères et sœurs persécutés. Et ici, Paul parle à ses disciples ou aux disciples d'Éphèse sur la manière dont ils doivent se comporter les uns envers les autres. Vous aurez remarqué que plusieurs fois l'expression « les uns les autres »,« les uns envers les autres » est mentionnée dans ce passage, ce qui montre la communion fraternelle qu'il doit avoir entre nous. Si nous marchons dans l'humilité, au verset 7, c'est Paul qui le dit, avec douceur, avec patience, alors nous pouvons nous supporter les uns les autres dans l'amour, et nous sommes aussi appelés à conserver cette unité que donne le Saint-Esprit dans la paix. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Ce qui est le plus dur pour moi, lorsque je dois mourir moi-même, c'est mon orgueil. En me disant, Seigneur, mais c'est moi qui ai raison, pourquoi est-ce que je dois encore m'humilier et pourquoi est-ce que je dois agir comme ça? L'humilité est quelque chose de très important. Et être humble permet justement de nous dépouiller de notre vieille nature afin de revêtir la nature de Christ. D'ailleurs, il a été rappelé ce matin que Jésus-Christ est venu dans une étable, il est né dans une étable, il a été humble. Rappelons-nous que Christ a tout abandonné. Il a abandonné toute sa richesse, toute sa gloire au ciel, et pour s'incarner dans un être humain. Il nous a montré l'exemple, à nous de le suivre, et à nous de compter sur la grâce et le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous pour pouvoir être humble, pour pouvoir agir avec douceur et avec patience. Ensuite, au verset 4, Paul rappelle que nous sommes un en formant un seul corps, uni par le Saint-Esprit. Cela est rendu possible car nous avons le même Dieu, le même Père, la même foi, le même Sauveur, Jésus-Christ. Dieu a choisi un corps pour son Fils Jésus-Christ. Et ce corps est composé de saints et de disciples. Et ce corps, c'est l'Église. L'Église est le corps de Jésus qui est, lui, la tête. Paul, dans les versets 11 et suivants, montre que c'est Jésus qui équipe son Église afin de la faire progresser dans la sanctification. C'est encore Jésus qui a donné des dons ou fait des cadeaux aux hommes, à certains frères et sœurs, afin de former des saints. Nous le voyons au verset 12. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc Jésus a donné des dons, oui. Il parle de 5 ministères, mais ces ministères sont là pour faire progresser les saints dans l'édification, dans leur progression spirituelle, afin qu'eux-mêmes, par la suite, puissent être des saints, des disciples qui encouragent les autres. Nous voyons donc que c'est Christ qui équipe son Église pour que dans notre communion les uns avec les autres, nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Et c'est toujours en Christ que l'Église tire sa croissance. Dans l'amour, comme nous l'a rappelé David, en tant que disciple, nous devons suivre l'exemple parfait de Jésus. Au verset 15, Paul souligne que la croissance du corps qui passe par la sanctification de tous ses membres se fait en se disant la vérité dans l'amour. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Les versets 17 à 24, Paul rappelle comment nous devons nous comporter dans l'Église, de quelle manière, en nous dépouillant de notre vaine manière de vivre. Il fait toute une liste de ce qui était notre vaine manière de vivre, que nous avions quand nous étions dans ce monde, quand nous étions sans Christ. Quand nous entrons dans le corps de Christ et que nous participons à la communion fraternelle dans l'Église, nous revêtons ainsi la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Alors, de quelle manière se manifeste cette nouvelle nature? Nous avons une réponse au verset 24 de ce passage. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Cette nouvelle nature se manifeste donc dans la justice et la sainteté, ou autrement dit dans la sanctification de chacun d'entre nous, et qui produit la vérité. Autrement dit aussi, la vérité est le moyen qui permet de produire la sanctification en nous. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne que la vérité nous affranchira tous. Alors comment manifester cette vérité et ainsi grandir chacun dans la sanctification ? Soit chacun de notre côté, ou bien en nous confrontant les uns les autres dans le corps de Christ, à savoir l'Église. Relisons le verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Pourquoi ? Car nous sommes tous membres d'un même corps. Personne dit Amen. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Paul montre bien que nous n'avons pas le choix, que du fait que nous appartenons au même corps, nous devons nous confronter les uns aux autres dans l'amour, mais aussi dans la vérité. En d'autres termes, aussi, nous pourrions dire que si nous n'avons pas de communion ou de relation fraternelle, cela veut dire aussi que nous ne faisons pas partie du corps de Christ. Relisons le verset 16. Le verset 16, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Paul, dans ce verset, en prenant l'exemple du corps, explique que c'est encore en Christ que nous sommes bien solidement attachés les uns aux autres. Et que dans l'Église, comme dans un corps, chaque membre a un rôle bien défini. Et ce rôle, comme nous venons de le lire, permet la croissance dans l'amour du corps. Nous grandissons chacun dans l'amour, dans la sanctification, mais cela fait grandir l'Église tout entière, fait grandir le corps. Comme je l'ai dit, si nous ne sommes pas disciples de Christ, alors aussi nous ne faisons pas partie du corps de Christ. À travers l'image du corps, Paul montre que, bien que la sanctification passe forcément par la communion fraternelle, mais comme nous l'avons vu, elle ne se fait pas par perte et fracas, bien au contraire, elle se fait dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'humilité et dans la vérité. Paul insiste dans ce passage 4 fois de se parler dans la vérité. Et la 4e fois, c'est au verset 25. C'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Alors pourquoi la sanctification passe forcément par la communion fraternelle? Tout simplement, cela est logique et je pense que vous l'avez compris. Nous ne pouvons pas progresser dans tous les domaines de la sanctification si nous sommes en dehors du corps. Car ce matin, qui a déjà vu un pied ou une main se balader tout seul hors du corps? Que se passe-t-il à ce moment-là? La main ou le pied meurt et ils se perdent. Alors oui, il est plus facile, comme je l'ai dit au début, d'être saint loin de son semblable, bien au chaud, chez soi, à regarder, écouter les messages qui nous conviennent. Car dans ces cas-là, nous ne serons jamais confrontés aux différents domaines de la sanctification. Si je ne vois personne, je ne parle à personne. Je ne risque pas de blesser mon frère ou ma sœur. Je ne risque pas de lui mentir aussi. Donc je n'aurai pas besoin de lui parler en vérité, dans l'amour. Je n'aurai pas à supporter le caractère difficile de mon frère ou de ma sœur. Mais je ne pourrai pas non plus, comme Paul nous le dit, donner une parole réconfortante, qui soit constructive et qui communique la grâce à la personne qui la reçoit. Alors oui, être seul nous empêche d'être confronté à notre vieille nature afin de la dépouiller et de revêtir la nature de Christ. Alors c'est vrai que ici, comme je l'ai dit, Paul énumère les 5 ministères que Dieu a donnés à son Église afin de l'édifier, afin de l'équiper pour former justement les nouveaux disciples et les saints. Non pas pour qu'ils restent bien assis au chaud sur les chaises, mais au contraire qu'eux-mêmes soient ensuite des personnes qui encouragent, des personnes qui parlent dans la vérité, des personnes qui s'humilient, des personnes qui vivent dans la douceur et la bienveillance. Et ensuite, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans l'Église pour encourager, édifier, reprendre, corriger nos frères et sœurs pour leur croissance et pour la nôtre. Alors si je me contente de venir que le dimanche matin, mais que je ne cherche pas la communion fraternelle dans la semaine, je ne pourrai pas exercer la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Je ne pourrai pas exercer la bonté, je ne pourrai pas exercer la fidélité. Et je ne pourrai pas non plus expérimenter la paix et la joie de se réunir ensemble dans la communion fraternelle. Les deux derniers versets de ce passage, les versets 31 et 32, sont en fait un résumé de ce qu'il faut abandonner pour se dépouiller de notre ancienne nature pécheresse et comment nous devons nous comporter les uns envers les autres. Et Paul nous donne la clé de la réussite, de l'unité et de sa croissance. Je vais relire les versets 31 et 32. Et je vais le lire dans la version français courant, parce que quand j'ai lu au début, c'était la version Nouvelle Bible Seconde. 31. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et l'autre version disait, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. Le pardon, on en a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'immersion de la parole, qu'est-ce qu'était le pardon ? Et c'est ce que Paul nous demande de faire. Et c'est là la clé pour pouvoir réussir l'unité. Parce que malheureusement, je vais vous donner un scoop, je ne suis pas parfait. Et je pourrais peut-être encore vous blesser, je pourrais peut-être encore être maladroit. Mais si c'est le cas, venez me voir pour que je puisse, non pas m'excuser, mais vous demander pardon. En toute humilité et ainsi vivre la réconciliation. Parce que c'est vrai que vous pourriez me dire ce matin, Thomas, mais c'est bien beau tout cela, mais quand cela se passe mal, quand je ne suis pas à la hauteur de ce que me demande Jésus, ou bien si mon frère et ma sœur m'ont blessé, que faire? Il faut, une fois de plus, agir comme Christ a agi. Et comme nous venons de le lire, comme Christ nous a pardonné, alors aussi manifestons le pardon dans nos vies. Parlons-nous en vérité, dans l'amour, la bienveillance, mais sachons aussi nous pardonner réciproquement. Alors pour conclure, on va lire 1 Jean au chapitre 1 et le verset 7. Et après acte 2, verset 42. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et acte 2, verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Alors nous devons lutter dans notre Église contre l'individualisme, en nous rappelant que nous sommes tous liés les uns aux autres, nous tous qui sommes saints et disciples de Jésus-Christ. Nous faisons partie de la même famille, et Dieu m'a donné de nombreuses sœurs et de nombreux frères. Et en faisant partie de la famille de Dieu, nous avons ce devoir, comme on l'a vu, de nous supporter, mais aussi de nous encourager, de nous reprendre, comme dit la parole de Dieu, si tu vois que ton frère a péché, va, reprends-le. Toujours cela dans la bienveillance, non pas avec des arrière-plans mauvais, et pourquoi ? Pour sa croissance, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse lui aussi avancer dans sa sanctification. Alors oui, la sanctification, s'opère à travers la communion fraternelle. Nous nous sanctifions chacun d'entre nous individuellement lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres, mais cela permet la sanctification de l'Église tout entière. Cela permet la sanctification du corps de Christ. Ne laissons donc pas le monde guider notre manière de vivre, mais en tant que disciples, laissons Jésus, la parole vivante et faite chair, nous guider selon ses principes. Je vous pose encore une petite dernière question. Vous avez encore 20 minutes ? Non, ce n'est pas 20 minutes, ne vous inquiétez pas. Petite question. Savez-vous comment le lion agit pour attraper sa proie et la dévorer ? Il court après, oui, c'est une bonne question. Et la réponse ? Oui, ça peut être les lions. Bon, on va dire les lions. Ils observent effectivement le troupeau. Avant, ils observent le troupeau. Ils observent le troupeau des brebis. On peut le dire parce que David, qui était berger, il dit qu'il a tué des lions et même des ours. Donc, les lions ont pu aussi observer les troupeaux des brebis. Et ils cherchent la brebis qui s'est écartée du troupeau. Car se trouvant seul, il sait que personne ne pourra la défendre. Et la parole de Dieu nous met en garde contre cela. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez bien éveillés, lucides. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Alors oui, Satan, quand il sait que nous sommes écartés du troupeau, il sait que personne ne pourra nous protéger, que nous sommes loin du berger. Alors oui, nous sommes loin de l'Église locale, de la communion des frères et sœurs. Et la communion des frères et sœurs, comme l'ont vécu les disciples de la première Église, ils participaient au partage du pain, mais aussi participaient aux prières. Et la prière est aussi un moyen pour que nous tous, nous puissions prendre soin des uns des autres, des plus faibles, afin de les apporter devant le trône de grâce, pour que Dieu puisse les toucher et les ramener à la bergerie. Alors oui, le lion saura qu'il n'y aura personne pour le défendre, la défendre, la brebis, ou la protéger, car elle sera loin du berger. Alors ce matin, que nous puissions être encouragés à nous soutenir les uns les autres, à vivre la communion fraternelle. Ce n'est pas une option. On ne peut pas aujourd'hui vivre, et ça c'est un mensonge, de croire qu'on peut vivre son culte le dimanche matin devant son écran, sa télé, et entendre les messages. Et si nous ne convient pas, on zappe. Après, je ne parle pas des personnes qui sont malades, bien sûr. Personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, comme nos personnes âgées. Ça c'est autre chose. Et tant qu'on peut se déplacer, tant qu'on peut venir en présentiel, n'hésitons pas. Et je vais vous encourager donc ce matin, concrètement, pour vivre cette communion, à participer à un groupe de maison. On a eu la joie, vendredi, de participer avec Roger, Jérôme, Damien, Margot et moi. Et je peux vous dire que ça nous a fait énormément de bien. Moment de communion, d'intimité, où on a pu échanger, parler, dire ce que nous vivions, nous rappeler de ce que David avait prêché le dimanche d'avant, et ça, ce sont des moments privilégiés, parce qu'après, on a prié les uns pour les autres. Je vous encourage aussi à venir participer aux agapes. des agapes qui nous permettent de voir et de supporter des frères et sœurs, parce que il y en a qui sont plus ou moins patients. Parce que c'est la vraie vie, et ça nous permet de voir que, voilà, nous ne sommes pas parfaits. Et qu'on peut s'aider, s'entraider, se supporter et s'aimer dans ces moments-là. Donc faisons comme nos frères et sœurs du premier siècle. Venons écouter l'enseignement de la parole pour après la mettre en pratique, comme je viens de le dire, dans les groupes de maison, lors des agapes, en participant aux différentes activités de l'Église, en s'invitant les uns chez les autres, en participant aux réunions de prière, en vous proposant peut-être d'aider des personnes âgées de notre Église. Bref, il y a tellement de moyens de grandir dans notre sanctification. Ne les laissons pas passer. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous dépouiller de notre vieille nature et de revêtir celle de Christ. C'est un miracle, c'est impossible humainement. Moi, je suis incapable de me changer. Si vous ne me croyez pas, demandez à Margot, elle vous le dira très bien. Elle est bien placée pour le savoir. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est aussi les prières de vous qui me permettent d'avancer et de grandir. Alors oui, notre sanctification se fait à travers la communion. Notre sanctification à chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, participe à la croissance spirituelle de notre Église. Dans nos relations fraternelles, nous progressons chacun pour notre sanctification, mais en même temps, cela a un impact sur la santé spirituelle de notre Église. Et comment savons-nous que nous sommes chrétiens ? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas par nos activités, aussi bonnes qu'elles soient. Ce n'est pas par les signes ou les miracles. Ce n'est pas par toutes ces choses. Ce n'est pas par une superbe louange avec des professionnels. Ce n'est pas par ce que vous voulez, non. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes chrétiens et que la lumière règne dans ce lieu. Alors pour terminer, si nous voulons progresser dans la sanctification comme Jésus-Christ nous le demande, ne négligeons pas notre communion fraternelle. Prions.